Bonsoir et bienvenue dans le 8e épisode de La Nuit des Divas.
La Nuit des Divas, un lundi sur 4 à 22h30, sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission où on présente la nouvelle génération des grandes chanteuses ou divas de pays arabes à partir des années 80. Chaque mois, on consacre un épisode à une artiste de ce chant, comme on a pu le faire avec Elisa, Ossol, Shen Abdelwahab et Magdalroumi. C'est toujours moi, Émilie, qui vous accompagne depuis septembre dernier. Et on se retrouve ce soir pour un épisode spécial puisqu'on accueille l'unique Lynn Adib.
Merci beaucoup, Émilie.
Bah, je vous en prie, je vous laisse vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas.
Je m'appelle Lynn Adib, je suis chanteuse, interprète, musicienne d'origine syrienne. Je fais un style musical qui serait plus de la musique arabe moderne. Donc, j'ai fait du jazz en France, mais j'explore un peu la musique arabe avec plusieurs styles. Mm-hmm. Et j'habite en France depuis 2009, maintenant.
Ok, mm-hmm. Depuis un bon moment. Mm-hmm. Je croyais que c'était plus récent.
Oui, vous n'avez pas tort parce que j'ai quitté en 2018 pendant 2 ans. Je suis allée en Syrie une année et ensuite au Liban et je suis retournée à Paris
okay.
en 2020.
D'accord. Et du coup, vous êtes originaire de Syrie, vous mm-hmm. habitez à Paris. Et il me semble que vous êtes entrée dans l'univers de la musique par une chorale mm-hmm. et une formation au conservatoire de Damas.
Mm-hmm, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être sur votre parcours musical, autant en Syrie qu'en France
J'ai commencé à chanter très tôt, à l'âge de 5 ans, dans le cadre d'une chorale qui n'acceptait pas des enfants très jeunes comme ça. Mais mm-hmm. Le prêtre qui s'appelle Elias Zahlaoui, qui était derrière ça, m'a entendue et m'a dit il faut absolument que tu rentres dans la chorale. Et j'ai grandi vraiment avec le chant en forme d'expression qui était pour moi un peu dans le cadre de tout ce qui est spirituel. Mm-hmm. Mais cette chorale avait cette particularité de faire des événements, beaucoup de concerts qui sont avec des chorales musulmanes, qui sortaient un peu du cadre un peu religieux et qui étaient un peu... pas très apprécié par la communauté chrétienne dont je fais partie, parce qu'ils ne voulaient pas trop qu'on se mélange, etc. Donc certains parents n'aimaient pas trop ça, mais ce prêtre avait vraiment un regard au-delà de ces conventions sociales. Et donc j'ai vraiment grandi avec ça, et j'ai pris des rôles de solo très tôt, donc la scène commençait à devenir plutôt... j'avais très peur de la scène au début, après c'est devenu une partie de moi. Et j'ai étudié la flûte traversière au conservatoire de Damas. J'ai voulu par la suite étudier ça professionnellement, mais c'est là où j'ai quitté la Syrie. C'était au moment où j'avais fini mes études d'université, où je me suis dit soit je reste en Syrie pour étudier la flûte, ou je pars étudier le jazz en Occident, entre guillemets.
Ok, et du coup, vous êtes venue à Paris, mm-hmm. au conservatoire de Paris.
Au début, je voulais aller aux États-Unis pour étudier à Berkeley, une école de musique assez connue dans le filière jazz là-bas.
Ok.
Et il s'avère que, vous savez, la France n'était qu'une escale pour moi au début. Donc, mm-hmm. je voulais vraiment aller étudier aux États-Unis. Le jazz, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et j'ai fait aussi des études de pharmacie en Syrie. Donc, je suis venue sous un peu le chapeau de la pharmacie devant ma famille. Un peu, je voulais faire la musique, mais c'était jamais une décision facile pour moi, parce que je viens pas d'une famille musicien. Ils sont très mélomanes, mais ça n'a jamais été très accepté jusqu'à très tard dans ma vie. Mm-hmm. Et donc je me suis un peu cachée derrière les masters en pharmacie. Et il s'avère qu'il y a une université française qui m'a acceptée vite, contrairement aux États-Unis qui demandaient encore une année. Donc je suis venue, je me suis dit je passe une année ici. Et vraiment, cette année est devenue maintenant 13 ans. En fait, j'ai jamais quitté la France.
Ok, bah, c'était peut-être ce qui était censé se passer.
C'est comme quoi, les buts qu'on dessine nous-mêmes, parfois, il faut rester un peu à l'écoute des autres opportunités qui arrivent. Et, mm-hmm. et juste le chemin, c'est ça ce qui est important. On ne sait pas ce qui va se passer dans les années qui suivent, mais pour l'instant, je suis encore...
Un peu l'idée du maktoub aussi, hein,
oui,
arabe,
oui, c'est parfois. Vrai. Quelque part, le maktoub, par contre, parfois, on pense que c'est nous qui le dessinons, mais c'est absolument pas à nous. Il faut qu'on soit à l'écoute.
Ouais. Non, je suis d'accord. Mais c'est assez beau et poétique quand même comme cheminement par la musique, en fait, et que ça vous est amené là. Mais par rapport à votre carrière musicale, on va dire, vous avez publié votre seul album personnel, Yom, en 2018.
Tout à fait.
Et dans cet album, il y a quelque chose que je trouve assez spécial, c'est on trouve une chanson, une comptine en fait, pour enfants, qui se nomme Titi, en collaboration avec le joueur de Kanun, Feres Sheresten. J'espère que je le dis
bien. C'est ça, c'est cela.
Et c'est une tradition en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de pays arabes. Beaucoup d'artistes en fait, ont composé, chanté des comptines, dont Fayrouz, grande diva libanaise dont on parle souvent dans cette émission. Et du coup, je voulais savoir... ça a été quoi votre inspiration derrière ce morceau et pourquoi en fait choisir de le mettre dans votre premier et seul album?
Parce que c'est déjà pour moi, c'était, enfin moi je suis devenue mère en 2015, donc cette expérience m'a évidemment bouleversée. C'est comme beaucoup de femmes qui parfois ils attendent que ça, parfois ça leur arrive un peu d'une manière inattendue, mais devenir mère pour moi c'était quelque chose d'assez fort. Et je me suis dit, moi, en tant que chanteuse, c'est pas possible que j'ai pas une mélodie que je vais chanter à ma fille qui serait ma mélodie à moi. Et je me suis pas mal inspirée de la chanson de Fayrouz parce que j'ai grandi avec ça. Yallatnam. Donc, Yom Walad Zali. C'est un peu ce truc un peu répétitif. Donc, même la mélodie, peut-être, elle est pas très loin, mais j'avais besoin de retrouver quelque chose de mon enfance. Et les paroles, donc, c'était des paroles par rapport à une histoire qu'on a vécue donc toutes les deux, qui me semblait nécessaire. C'est comme une conversation avec lui pour lui dire, mais écoute, je le cherche comme toi, mais je le trouve pas. Donc c'est aussi ça. C'est quelque chose qui est venu vraiment d'un côté très 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 personnel et très intime. Tout cet album d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'ai sorti de manière, je l'ai littéralement accouché. C'est comme si il fallait qu'il sorte. Donc j'ai pas étudié d'une manière très intelligente comment le sortir à travers telle ou telle boîte. J'ai vraiment pas fait comme il faut même. Je voulais quitter la France à l'époque suite à un incident personnel assez, assez fort qui m'a d'ailleurs poussé à faire Yuma. Et c'est marrant parce que la date d'anniversaire de cet événement difficile, c'est aujourd'hui le 10 avril.
Oh.
Donc, c'est en fait le 11 avril. C'est demain, mais comme ça va ressortir demain, donc c'est assez fort aussi, c'est marrant. Et donc... c'est très beau aussi parce que cet événement a été derrière un peu cette urgence de sortir de cet album et donc les compositions qui étaient faites pendant cette expérience et le chemin que j'ai parcouru depuis la Syrie aussi. Ces deux événements un peu qui étaient très forts dans la vie, quitter la Syrie, venir ici vivre quelque chose de très fort, que ce soit le déracinement, que ce soit donc cet événement personnel assez fort.
Mais justement, c'est la dimension un peu de la transmission, c'est à la fois familiale mais musicale, du coup, que j'apprécie derrière ce morceau et qu'on peut écouter tout de suite d'ailleurs.
داخل شغلك عالحيطان مثل اللون
بيك شداد مناخير دخلك 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 شروالك بدو لك نامي نامي سارة يا زينة أهل الحارة شعرك وداني لبعيد يا ذهب يا شلالي يما لا تسألي عنده لا تزعلي يما عيني دار اللي يما والله وما لقيته يما لا تسألي يما لا تسألي.
On vient donc d'écouter Titi de Lynn Adib, avec qui on est ce soir. Et on se disait justement que ce morceau nous fait beaucoup penser à Yalot Nemrim de Fayrouz, qui est une comptine plus que connue dans le monde arabe, je pense qu'on peut dire globalement. Et c'est une mélodie dont beaucoup se sont inspirés, du coup, y compris vous. Et pareil, on va l'écouter tout de suite pour pouvoir voir un peu les similarités.
يلا يجي هالنوم يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم يلا تجي هالعوافي كل يوم بيوم يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تصدق بضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحن دقة شعرك أشقر ومنقة واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو بيترقى يا بيا العناب والعنابي قولوا لأمي قولوا لبي خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوى لقطف لا ريما مشمشي هي هي وهلينا دستك لكنك عيرينا تنغسلت يا بريمة وننشر هنا على ياسمينة.
On vient donc d'écouter Yalot Nemrim de la version de Fayrouz en lien avec la chanson Tite de Lynn Adib. Et ce que je disais un peu hors micro, mais que je vais expliquer ici, c'est que moi, cette chanson, je l'ai découverte plus tard, donc adolescente.
Oui.
Mais la chanson, enfin la version que mon père me chantait enfant, c'était une version un peu baladi, égyptien en fait. Et c'était Yalot Nem, Yalot Nem, Nedbahlo Gozel Hamem. Et ça finissait par « Yétrémédo Winem ». Donc une version vraiment un peu plus humoristique,
oui.
Un peu plus vraiment baladi égyptien.
Mais les Égyptiens sont connus pour leur humour en général.
Ah oui.
C'est vrai.
Ah oui, oui. Ah, ouais. Bah, donc il m'a fait un petit remix et après j'ai découvert que c'était une chanson de Fayrouz. C'était...
Oui, oui, c'est la chanson, c'est la berceuse ouais. De la région. Vraiment, ouais. On a tous grandi avec cette chanson et tous nos parents nous ont chanté ça.
Mais est-ce que justement, en parlant de Fayrouz, ça a été une figure qui a pu vous inspirer autant en fait dans l'inspiration musicale, poétique, etc. Que dans la posture où en fait Fayrouz c'est une diva comme Oum Kalsoum c'est une diva arabe, en fait ce qu'on appelle diva, Werda aussi, Werda
el-Zahiriya,
exactement. Est-ce que c'est aussi une posture dans la manière de chanter, parce qu'il y a une gestuelle qui vient avec, etc. C'est des choses qui ont pu vous inspirer.
Je pense souvent à ça parce que je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des figures comme ça aujourd'hui qui, qui, qui ont cette posture. Je ne sais pas si c'est la posture tellement, mais à l'époque aussi, c'était moins accessible. Tout était moins, enfin, moins comment dire ? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tellement accès avec cette facilité d'enregistrer, de filmer, de poster, de tout ça. Donc, on est un peu submergé par la quantité des talents ou des gens qui sont doués d'ailleurs. Certains, ou moi, je ne juge pas de toute façon ça du tout. Mais on est un peu dans une saturation quelque part. À l'époque, c'était vraiment les bons, c'est ceux qui brillent. Il n'y avait pas cette facilité comme aujourd'hui. Donc vraiment, c'était plus difficile, je pense, d'arriver à là où il y avait Oum Kulthoum ou Warda ou Fayrouz. Fayrouz, pour moi, c'est l'oreille, en fait. Nous, quand on grandit dans un pays comme la Syrie, le matin, quand mes parents prennent le café, il y a toujours la radio. Mm-hmm. Il y a une radio donc, qui mettait tout le temps. Et il y avait toujours les chansons de Fayrouz le matin. Donc, c'était un peu associé au matin. Fayrouz. Okay. Mais Fayrouz, même aujourd'hui, quand on l'écoute, quand on met une chanson, même aujourd'hui à Damas, dans les cafés de Damas, c'est joué le matin avec le café. Donc, c'est vraiment concomitant avec la période matinale. Et sa voix donc, nous a accompagnés. Mm-hmm. Petit à petit, que ce soit Fayrouz ou la musique de la maison Rahbani dans laquelle elle s'est baignée musicalement.
Ouais,
elle avait aussi une présence sur scène qui est assez particulière. Elle était très sérieuse sur scène, elle mettait parfois des lunettes ou pas, mais elle souriait pas, elle dansait pas, elle était vraiment comme ça figée.
Mystique,
oui, très mystique. Et elle a fait, il y a quelque chose que j'ai pas mal, qui m'a pas mal inspirée chez Fayrouz, c'est qu'elle faisait aussi beaucoup de chants religieux, beaucoup de chants spirituels, parce qu'elle avait un disque pour la Semaine
Noël.
Sainte. Il y a ça. Et il y a aussi... Enfin, moi, le disque que j'aime le plus, c'est le disque de Asbu' al-Alam, c'est la Semaine Sainte. Donc, il y a beaucoup de chants qui font le deuil par rapport aux morts de Christ. Et c'est vraiment magnifique comment elle se chante. Il y a une certaine vénération aussi pour ce genre de figure.
Que parfois
j'ai du mal aussi, même quand on vénère trop un artiste, c'est un poids lourd pour l'artiste lui-même. Et je pense que c'est parfois injuste pour certains artistes, d'autres artistes. Mais quelquefois, moi, je ne peux pas te dire que je n'ai pas été complètement bouleversée par Fayrouz quand je l'ai vue comme ça en vidéo chanter la première fois, où je n'ai pas écouté sa voix. Je ne peux pas te dire ça. Vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup influencée, pas par sa manière de chanter, mais son existence tout court.
Ouais, donc si c'est pas tant en fait la posture de diva, après la posture de diva, ça on en parle souvent dans l'émission, c'est un terme justement qui peut poser problème sur pas mal de questions, dont justement on place certaines divas un peu sur un piédestal extrêmement élevé, mais en même temps parce que c'est des figures assez phénoménales quand on voit, pareil, on en parle souvent ici, les lives de Mokalsoum,
oui,
les gens
vraiment
qui tombent dans les pommes.
Ouais, ouais.
Oui. L'extase, la transe aussi qui vient avec le torb, ce genre, tous ces genres musicaux en fait qui poussent au lancinement, etc. Mais c'est que on les met sur un piédestal qui est à la fois mérité, mais à la fois peut être problématique justement quant à l'émergence de nouveaux artistes. Et c'est quelque chose que Hajar Ben Boubaker, donc Vintage Arab, disait dans le précédent épisode, c'est que du coup quand maintenant notre génération ou les artistes des années 80, donc les artistes dont on parle ici, donc contemporains, ils émergent alors qu'il y a encore ces figures qui sont très très présentes. Donc c'est vrai que ça laisse peu de place finalement à l'émergence de nouveaux artistes, et ça laisse peu de place aux héritières entre guillemets. Après, moi je considère qu'il y en a énormément quand même, des héritières des divas. Je pense surtout à Mayed El-Hennaoui, Ossol, qui a aussi à la fois le bagage culturel syrien, à la fois égyptien, sur le plan musical.
Mais en fait, tu sais, la vie aussi, elle évolue beaucoup. Enfin, je veux dire, la musique et la présence des artistes dans le monde arabe, dans la musique arabe, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a une place très importante aujourd'hui à la musique, ce qu'on appelle underground, ou la musique indépendante, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était vraiment dans un cadre assez particulier de faire la musique. Et là, maintenant, vraiment depuis un peu le printemps arabe, entre guillemets, tu vois vraiment beaucoup plus de groupes de musique qui commencent à faire des choses. Enfin, moi, je suis bombardée. C'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Et que je suis... il y a vraiment du travail, de l'effort pour mettre la lumière sur des groupes qui feront beaucoup de styles différents. Mais au fond de moi, c'est vrai que parfois, ça me manque... de revenir un peu en arrière et écouter M. Kultoum comme ça. Il y a quelque chose de, qui reviendra jamais, mais c'est pas grave. C'est une autre forme. La musique a pris une autre forme dans le monde arabe, tout simplement.
Oui, c'est vrai que ça va avec l'évolution en vrai assez logique de la musique. Et
mais ça,
c'est chutant, quoi.
Mais quelque part, c'est vraiment quelque chose auquel je pense souvent. Est-ce que c'est bien de refaire la musique arabe? Parce que finalement, on est pas mal influencé par l'Occident. Donc en fait, la musique arabe, certains disent, elle est en train de perdre son originalité parce qu'elle suit un courant qui est un peu plus à la mode maintenant, que ce soit par les rythmes, les visuels, la manière de chanter. Mm-hmm. Peut-être. Mais je pense qu'il faut donner la place à tout le monde. Il y a des gens qui maîtrisent encore le classique.
Totalement.
Il y aura de tout. Il ne faut juste pas avoir peur, je pense, d'essayer de nouvelles choses. Mais moi, par exemple, pour moi, j'ai essayé de pas mal explorer autour de la musique arabe, mais je sais que moi, personnellement, je dois ne pas oublier d'où je viens et essayer de chanter de certaines manières, certaines choses. Et ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Je suis toujours à la recherche d'écouter plus, prendre des cours. Parce que je ne viens pas de je ne suis pas une héritière de M. Kultoum. Je sais, j'ai une manière de chanter très particulière à moi-même que j'ai chantée, je ne sais pas pourquoi. Et donc, parfois, je me dis, en fait, quand j'écoute M. Kultoum, on me dit, mais personne ne peut chanter quand même. Il faut vraiment que je fasse des vocalistes, des cours de chant, juste pour pouvoir un peu maîtriser le classique et après je peux faire ce que je veux avec, mais il faut un noyau assez solide à mon avis, si on peut,
ça,
si on a les capacités.
Ouais. Bah, surtout ça dépend de dans quel genre musical on veut évoluer,
oui.
Mais quand à ce qui touche, on va dire, au genre traditionnel de musique arabe, c'est sûr qu'il faut un noyau, il faut une base même de maîtrise vocale hyper importante. Mais par exemple, ce qui touche à la pop, là oui, on voit que la pop, par exemple en Égypte, au Liban, ça perd un petit peu de sa spécificité, parce que quand ça a émergé vraiment fin années 90, début années 2000, on était quand même avec des sonorités vachement arabes, arabo-andalouses, alors que là c'est quelque chose qui se perd justement par l'influence de la pop un peu États-Unis, ce truc très États-Unien.
Oui,
aussi
les États-Unis
pop,
en général, oui, l'Angleterre, oui.
Ça dépend assez de quel genre de musique on va parler, quoi.
Mais en fait, de toute façon, à la fin, moi ce que je pense, c'est que ce qui est important, que ce soit pour les artistes du monde arabe ou l'artiste du monde entier, c'est de pouvoir délivrer quelque chose d'assez sincère. C'est ça, en fait. Quand on a envie de chanter du pop un peu à l'américaine en arabe, why not? Pourquoi pas? Tant que ça délivre quelque chose d'assez... Peut-être la personne a grandi dans une certaine... Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas faire comme l'autre pour être plus cool. Si on a grandi dans un environnement un peu classique, on a grandi avec M. Kultoum, on le maîtrise. En fait, je pense qu'il faut vraiment délivrer quelque chose qui nous ressemble. C'est ça, c'est là où ça devient fort, la musique, quel que soit le style, quel que soit le respect ou pas de certains codes.
Ouais, et c'est là où c'est quelque chose qu'on peut peut-être plus se permettre dans l'industrie musicale quand on appartient à la scène underground, justement. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes obligations.
Bien sûr.
Et oui, tout le poids qui vient avec le fait d'être signé dans une grosse maison de disques, etc. Ouais. Mais pour en revenir justement au déracinement que vous évoquiez tout à l'heure, moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous poser, enfin une question, c'est que du coup, enfin, vous venez de Syrie. En vrai, c'est pas anodin parce que c'est un pays qui a été partiellement détruit. Et puis là, récemment, il y a eu quand même le tragique tremblement de terre. Et vous, comme de nombreuses personnes, du coup, et c'est un peu l'histoire de certains pays, vous avez dû beaucoup déménager et on en revient en fait du coup à la thématique de l'exil. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que cette thématique de l'exil, qui là n'est pas une thématique mais un vécu, ça se transmet en fait dans votre processus de création.
Tu sais, moi je considère quelque part que parfois j'étais exilée, même en Syrie même. Enfin, j'ai toujours senti que il y a un endroit, même aujourd'hui en France, j'ai toujours cette impression que je n'ai pas trouvé l'endroit dans lequel je suis complètement moi-même et que je suis en train de m'épanouir complètement comme je veux. Mais c'est quelque chose qui s'est installé chez moi parce que justement, en Syrie, j'ai senti que, ah tiens, moi, je suis un peu bizarre, j'ai envie de faire la musique alors que mes parents ne sont pas du tout pour. Mes amis font telle ou telle chose, moi, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai toujours senti que j'étais un peu bizarre par rapport à ça. Donc, cette sensation m'a quand même pas mal accompagnée en grandissant. Mais donc, donc même en rentrant depuis la France, je suis rentrée en Orient, entre guillemets, j'ai senti une sensation très forte de solitude. Donc j'ai écrit une chanson pour un des projets qui s'appelle Mansilla. Et donc je me suis dit, non mais en fait, cet exil, il faut que je vive avec. Il faut que je commence à le considérer comme un moteur chez moi. Mmh. Et donc, oui, en fait, c'est pour ça peut-être que je n'arrive pas à décider de rentrer, par exemple, en Syrie ou dire pourquoi pas, ou même dans un pays un peu du Moyen-Orient où je me sens un peu plus chez moi. Je me suis habituée à être dans une espèce de bulle à moi qui maintenant peut être n'importe où. Et j'ai choisi un endroit où j'ai la sécurité pour moi et ma fille, clairement, et où je peux chanter librement aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça en France. Et maintenant, je considère que c'est quelque chose de... J'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir ce choix-là. Et c'est pas grave si j'ai une sensation d'être un peu loin de chez moi. Ça me permet aussi d'être très créatif.
Bah justement, c'est totalement en accord avec... c'est une citation qui m'a beaucoup frappée, notamment quand je préparais un petit peu cette interview. C'est que Mahmoud Darwish, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est un auteur palestinien et un des plus grands poètes arabes contemporains, il disait dans un entretien à Tel Aviv en 96, retranscrit dans l'ouvrage « La Palestine comme métaphore », publié en 2002 aux éditions Actes Sud, il disait cette phrase « On peut dire de tous mes écrits qu'ils sont une poésie d'exilé et l'exil a été très généreux pour mon écriture. Il m'a donné la possibilité de voyager entre les cultures et entre les peuples. » Et en fait, c'est totalement en accord avec ce que vous dites. Et il disait aussi, bon ça je ne l'ai pas noté, c'est juste quelque chose qui moi personnellement m'a frappé, que l'exil est aussi psychique, il est aussi intérieur en fait. Et il n'est pas que matériel dans le sens où est-ce que j'habite en fait. Et ça résonne totalement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme le mal, c'est souvent... J'ai vu récemment une pièce de théâtre qui parlait un peu du mal et qu'est-ce que... Ça, c'est le mystère de la vie, je ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que le mal est finalement quelque chose qu'on doit célébrer ou pas ? Enfin, malheureusement, la vie est pleine de souffrances. Mais en fait, quelque part, les souffrances ont été derrière les plus grandes créations des humains. Mais à la fois, on n'a pas envie que nos chers souffrent. Donc, c'est compliqué. La vie est mystérieuse avec ça. Donc, c'est l'exil, la souffrance, la mort, la maladie, les guerres, les tremblements de terre. Tout ça, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. J'ai pas envie que ça m'arrive à ma fille. Mais quelquefois, on va vivre avec ça. Et c'est des moteurs à notre création.
Oui, parce que du coup, en fait, c'est comme si on, en fait, de manière banale, on fait avec ce qu'on a, quoi. On souhaite pas que ça arrive. Ça, non, c'est évident. Non. C'est évident. Mais une fois que ça arrive, ça a un impact sur l'humain, en fait, sur l'individu, qui fait que, bah, quand on est, par exemple, chanteuse, musicienne comme vous, évidemment, ça... Ça peut être une source d'inspiration, mais justement en lien, on peut écouter le morceau que j'ai sélectionné, c'est Nomade de Bedouin Burger.
بالتغيير
La nuit des divas, un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris.
On vient donc d'écouter Nomade de Bedouin Burger. Donc c'est une collaboration entre vous, Lynn Adip, le producteur, musicien libanais Zeid Hamden, qui est vraiment un pionnier de ce que j'ai pu voir de la scène électronique libanaise, justement, et de l'underground. Et ce duo, Bedouin Burger, moi, je trouve ça assez intrigant, ce nom de titre, ce nom de groupe, pardon, et le nom de ce titre Nomade qu'on vient d'écouter, justement, par cette figure du bédouin, du badawi en arabe, qui est assez particulière. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement la manière dont s'est formé ce duo et le lien que vous faites avec la figure du nomade finalement ?
Alors, Bedouin Burger est un projet qui est né d'une manière très naturelle entre Zeid et moi. J'avais quitté la France, donc comme j'ai dit, en 2018 pour aller en Syrie. Ensuite, vite, je me suis dit, il faut que j'aille au Liban parce que je pense à la musique pour l'instant en Syrie, c'est un peu tôt après ce qui s'est passé, la guerre en Syrie pendant 10 ans. Je suis allée au Liban et vraiment le lendemain, j'ai retrouvé Zeid, c'est-à-dire sur la route, dans le taxi, j'ai commencé à connecter avec lui. Je l'avais rencontré par hasard dans une soirée une année précédente et on a commencé à traîner ensemble, vraiment. Vite, on a développé une grande amitié. On avait un peu les mêmes curiosités. Zeid, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est vraiment très innocent avec la musique. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de musique, mais c'est comme si à chaque fois, quand il touche à quelque chose, c'est comme s'il le fait pour la première fois. Donc, c'est très inspirant aussi. Et on a commencé à rigoler un peu. Allez, tu sais, j'ai enregistré cette chanson. Enfin, j'ai composé cette chanson. Il me dit, mais chante-la. Je la chante. Je n'ai même pas pensé qu'il va travailler dessus. Et après, il me fait écouter quelque chose. On a commencé à danser tous les deux dans le studio comme des fous. Je lui dis, mais incroyable. Mais en fait, tiens, mais c'est génial. Écoute, moi, je suis très... j'adore la culture qu'on appelle... Enfin, en France, on connaît ça sous le nom de Sha'abi.
Ouais.
Sha'abi. Et moi, on appelle ça en Syrie l'arabe. C'est la musique de des côtes, un peu dans l'ouest de la Syrie, et qui est beaucoup jouée dans les mariages, etc. Et c'est très rythmé. Et franchement, le clavier fait un truc hyper simple. C'est pas du tout musical. Enfin, c'est pas du tout évolué musicalement.
Ouais.
Mais rythmiquement, c'est une sorte de transe sur laquelle on danse. Et donc, je lui ai dit, écoute-moi, c'est mon rêve de faire un peu de musique qui ressemble à ça. Je me sens une de ces personnes-là qui viennent de cette culture-là. J'ai aussi cette fascination pour la culture bédouine depuis petite. Moi, je regardais que des films bédouins. J'aimais cette légèreté de vie, malgré qu'elle est très rude et difficile. Mais il y avait ce côté ou comme la chanson Nomade qui vient de passer, où je dis Malibet, je n'ai pas de maison. C'est cette sensation de pouvoir appartenir à la nature, à le terha, le voyage, ça m'a fascinée. Enfin, ça me fascine toujours, même quand j'en parle. Et donc, on a dit, dans la rue, on est en train de marcher, je lui ai dit quelque chose autour du mot bédouin. Et il m'a dit, pour rigoler, bédouin burger. C'est juste parce que lui, il se sent un peu le mec. Et, parce qu'en fait, avec le son de Zayd, c'est un son un peu gras, un peu multicouche, un peu mainstream, mais avec beaucoup de travail. C'est pas mainstream dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est accessible quelque part, comme le burger un peu, quelque part. Donc en fait, c'était une blague, bédouin burger, au début. C'était, on rigolait. Et quelque part, il fallait assumer ce nom. Et c'est devenu vraiment, quelque part, petit à petit, des petites choses qu'on sentait. Mais en fait, on est vraiment ça, bébé, Bedouin Burger. Et on a sorti le 31 mars notre EP qui s'appelle Bébé, qui est donc un bout de notre album qu'on a commencé à faire ensemble depuis 2019.
C'est sorti aujourd'hui ?
C'est sorti, ouais, le 31 mars.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, mais je sais pas comment je vous non, avez non, pas mais fait on, de promo.
Si, on est en train de le faire, donc.
Ok.
Donc c'est sorti là, il y a quelques heures, donc.
Ouais. Moi, j'ai hâte d'écouter ça parce que oui, justement, vous avez, enfin vu que c'est assez récent, il y a pas beaucoup de morceaux en vrai.
Non, on a sorti très peu de morceaux. Ouais. Et dès qu'on a sorti même deux morceaux, on a commencé à jouer beaucoup.
Ouais.
Mais l'album est prêt depuis assez longtemps. Et
ah,
là,
vous nous faites attendre volontairement.
C'est ça, mais là, on est très heureux donc, de sortir le P et de le partager parce qu'il y a des morceaux vraiment qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui parlent de nos expériences, que ce soit moi ou Zayd, et nos petits rêves comme ça de faire certains styles ou parler de certaines choses. Donc, on est très heureux.
Ok. Ouais. Mais j'aime bien parce qu'en fait, cette rencontre un peu... au hasard, la chanson Nomade, tout ça, c'est en fait c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est devenu notre réalité quelque part. On a parlé de nomades, on est devenu des nomades nous-mêmes parce qu'on s'est retrouvés à Paris après. Moi, je suis venue à Paris avant l'explosion du Beyrouth, mais Zayd était à l'extérieur du Liban en vacances avec sa famille, mais son appartement était complètement détruit par l'explosion. Pas moi, mais lui. Et donc, moi, je suis revenue à Paris et lui, il avait déjà une idée parce que la situation au Liban cette année précédente, avant l'explosion, était vraiment terrible.
Ouais.
Et donc, il a décidé de déménager. Et par hasard, ça a permis. Enfin, le hasard a fait que cette rencontre, on revient à la souffrance et au mal. Les malheurs, nos malheurs, quelque part, nous ont réunis à nouveau dans un pays comme la France, par hasard aussi. Et là, on continue ce projet ensemble.
Ouais. C'est très beau, c'est assez touchant. Et ça se voit que vous avez quand même une certaine complicité. Parce que j'ai pu vous voir aussi à la soirée qui était organisée. C'était soirée musique pour la Syrie.
Mm-hmm.
C'était la semaine précédente. Oui. Et justement, vous étiez vous deux sur scène pas un moment et c'était très sympathique. En tout cas, ça rend super bien, je trouve, justement, le décalage un peu parfois entre des productions très, très électroniques, très rythmées, et votre voix qui a quelque chose d'assez angélique, en fait, presque.
Oui, c'est une rencontre assez particulière parce que j'ai jamais pensé pouvoir faire un projet autour de ce style musical.
Ouais.
J'ai toujours été très, très musique acoustique, un peu jazz. Il y a une certaine esthétique que j'aimais bien. Et c'est vrai que c'était un terrain pour moi très nouveau. Et je trouve ça très enrichissant parce que ça complète quelque chose chez moi aussi que j'aime, qui est le beat, qui est un peu le de la danse, etc. Et je trouve que cette amitié est très fertile et elle est très constructive parce que ça ne nous empêche pas de s'épanouir dans des projets perso, que ce soit moi ou Zayd. Donc ça, c'est vraiment bien.
Ouais. Bah c'est assez beau et touchant en tout cas, mais là en vrai tout ça, je trouve que tout ça en fait ça va de manière très fluide et c'est un cheminement assez logique et naturel, mais justement je trouve que cette présence en fait dans votre musique de la poésie dans cette manière là la figure du nomade, de l'exil intérieur mais aussi extérieur, tout ça amène vers quelque chose en fait de très spirituel, que ce soit dans le sens religieux, donc l'appartenance à une religion, ou juste spirituel dans le sens assez mystique. Et sur votre premier album, justement, Yum, dont on parlait tout à l'heure à l'occasion
J'adore
de,
comment
de
tu le
morceau.
Prononces.
C'est, vous le prononcez comment vous
Non, c'est très beau.
Ah, ok.
Yum.
Il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Ode to Mary, qu'on peut écouter tout de suite d'ailleurs. On vient d'écouter Ode to Marie, un morceau de Lynn Adib présent donc, sur votre premier et seul album Yum. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette ode, en fait, qui est un chant religieux originaire de l'église maronite, il me semble.
Tu sais, alors, l'origine exacte, je n'ai jamais fait vraiment la recherche pour te dire exactement. Je sais que ça s'appelle Yamarem ul Bikru.
Ouais.
Donc, moi, j'ai appelé Ode to Mary ou Ode à Marie parce que pour moi, je n'arrivais pas à traduire Yamarem ul Bikru, en fait. Ô Marie, Bikru.
C'est vrai que je ne saurais pas.
Et donc, c'était pour moi que c'était une louange à la Vierge, de toute façon. Et c'est un chant très, très connu chez nous, qu'on chante beaucoup au mois de la Vierge. Qui est, donc, tu sais, la communauté chrétienne en Orient, elle n'est pas très nombreuse. Surtout en Syrie, on est 10 à 15% de population. Mm-hmm. Mais donc, on est assez attaché à certaines traditions. Et donc ça, moi, j'ai vraiment grandi avec ça à l'église. J'ai toujours adoré de la bouche de Fayrouz.
Oui.
Et j'adore, moi, tout ce qui est en rapport avec la Vierge, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même au niveau, oublions la religion, hein, c'est oui. pas du tout, enfin, je suis pas quelqu'un de religieux du tout, mais cette image de la mère un peu éternelle et internationale et qui peut tous nous protéger, enfin, cette envie d'avoir toujours un repère avec la mère. Qui, ouais. Que ce soit le sujet de mon premier album, d'ailleurs, qui s'appelle Maman, Yuma. Mm. Donc, c'est comme un besoin toujours d'avoir un appui dans la vie qui est dure parfois. Et donc, c'est là où, à chaque fois que je fais un concert, seul en tout cas, dans mon projet seul, il y a toujours une prière à la Vierge parce que je sens que j'en ai besoin. Peut-être si je suis née musulmane ou bouddhiste, ça aurait été un... Mais je suis sûre que j'aurais trouvé une autre figure oui. sur laquelle je peux m'appuyer. Mais c'est un besoin avant tout. Donc, ça, c'est devenu de là.
Non, c'est ouais. quelque chose que je partage totalement. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le morceau « Taoni Martoub mm-hmm. », donc présent sur l'album « Nirness » publié en 2022, mm-hmm. qui est une collaboration avec... le compositeur et musicien français Marc Buronfons, mm-hmm. notamment
Buronfos,
compositeur...
ouais.
c'est Buronfons.
Buronfos, très bien.
Buronfos,
très bien.
Okay. notamment un compositeur de jazz. Mm-hmm. Et justement, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser au chant religieux des églises coptes, en fait, mm-hmm. Égyptiennes, parce que moi, du coup, je suis d'origine copte. Mm-hmm. Et les teranimes, mm-hmm. en fait, ce mot, donc oui, qui serait mm-hmm. l'équivalent de chant religieux. Et justement, je trouve ça assez particulier, la manière dont vous, parce que, par exemple, au concert jeudi précédent, donc jeudi 23 mars, il y avait des personnes pas du tout, c'était pas du tout un public entièrement, on va dire, arabophone. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que justement, cette figure de la Vierge qui moi aussi me fascine, alors que je suis pas du tout quelqu'un de religieux non plus, pas très pratiquante, c'est une figure qui me fascine complètement justement par le truc sacré de la mère, le carême qu'on lui fait chaque année au mois d'août chez les Coptes. Je trouve que ça se transmet dans votre musique et que ça dépasse un peu en fait le barrage de la langue. Parce que par exemple, Taouni Martoub, j'espère que je l'ai dit correctement,
c'est ça.
C'est un chant syriaque.
Tout à fait.
Et du coup, est-ce que vous, c'est une langue que vous parlez est-ce que c'est un texte que vous... comprenez s'il n'est pas traduit et pourquoi aussi reprendre ce texte antique, il me semble.
Mm-hmm, tout à fait. Tu sais, parce que la langue syriaque, c'est une langue qui est en train de disparaître. Mm-hmm. Il n'y a pas de syriaque qui est... Enfin, l'assimilation dans la région a fait que la langue syriaque, l'araméen, le syriaque, est en train de disparaître, malheureusement. Donc, c'est triste parce que c'est une langue... les langues sémitiques qui datent depuis des milliers d'années.
Ouais.
Mais évidemment, nous, en Syrie, par exemple, on a quelques villages, notamment Maloula, qui parlent encore l'araméen, c'est la langue du Christ. On parle beaucoup Christ et tout ça, on va penser que c'est juste trop... non, mais c'est un hasard complet. Hein.
Ouais.
C'est juste que, en fait, je suis très attachée à mon enfance et c'est là où j'ai grandi, tout simplement. Donc, l'araméen, le syriaque... Il y a que des familles qui parlent entre eux. C'est une tradition orale qui est transmise. Il n'y a pas vraiment un côté académique ni rien. Donc, vraiment, c'est la moindre des choses de pouvoir au moins chanter une chanson en syriaque. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement de belles chansons. Et la langue, ça ressemble un peu à l'arabe, quelque part, avec des racines un peu différentes. Mais c'est une envie, quelque part, chez moi, de rendre hommage au passé de cette région qui est en train de souffrir beaucoup aussi qui mérite d'être un peu exposé, je trouve.
Et aussi, du coup, de le transmettre, en fait, à tout type d'auditeurs, quoi.
Oui, parce qu'il y a ce côté, justement, de la mère universelle qui représente la Vierge Marie, qui je trouve un peu... Enfin, j'ai toujours voulu faire un pont avec l'autre, qui pourrait peut-être pas comprendre ce que je dis, mais qui sent les choses. C'est pour ça aussi que j'écris pas mal de paroles en arabe sur des chansons de jazz au début, parce que je me suis dit, j'ai envie de faire écouter la musique... Enfin, la langue arabe à travers quelque chose qui parlerait aux gens qui sont pas d'origine arabe. Moi, moi, ça me touche beaucoup quand quelqu'un qui n'a pas de lien avec la culture arabe me dit cette chanson m'a touchée ou m'a parlé ou sans qu'il comprenne de quoi je parle. Et quand je lui explique les paroles, d'autant plus il y a de l'effet. Mais c'est la force de la musique aussi. Oui, c'est quelque chose d'invisible parfois qui est pas intellectuel, qui traverse le cœur. Ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans la musique.
Et je trouve que c'est vachement en lien quand même avec l'usage de la poésie aussi que ça peut avoir, c'est que on comprend pas forcément un texte, on comprend pas forcément une langue, mais le fait est que dans les sonorités en fait on peut justement se reposer que au son quand on comprend pas un texte. Et donc justement dans la manière dont on va écouter en fait les sonorités, ça va forcément y a quelque chose de presque psychique en fait qui va nous renvoyer à une émotion, un sentiment, un souvenir précis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu en écoutant Taoni Mortubo, dont je n'ai pas compris un seul mot, honnêtement.
Mais c'est encore à la Vierge, c'est encore un louange à la Vierge.
Ok, bon, ça, je ne savais pas. mais du coup, je pense qu'on peut écouter Taoni Mortubo tout de suite. Alors, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Taoni Mortubo de Lynn Adib en collaboration avec Marc Buron-Fosse sur l'album donc Nirnes, publié en 2022. Et c'est un chant syriaque, un chant religieux, un ode à la Vierge, parce que c'est en lien avec ce dont on vient de parler. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette présence du divin, justement, du sacré dans votre musique, ce serait pas un ça pourrait pas être un moyen de guérison, autant pour vous que vos auditeurs, parce que justement, c'est le ressenti que j'ai en écoutant votre musique, d'être en contact avec une dimension spirituelle hyper large, qui m'est personnelle, mais que c'est un contact justement en tant que enfant d'immigré, donc qui ne vit pas dans son pays d'où mes parents sont originaires, qui vient guérir quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi précisément, parce que ça reste un peu dans le mystique, le spirituel. Mais oui, voilà, votre rapport en gros à un peu à la guérison, quoi.
Oui, tout à fait. La musique en soi, elle était une forme de pratique spirituelle ou sacrée tout court. Donc c'était pour moi un besoin de guérir de beaucoup de choses que peut-être j'ai vécues même petite, que j'ai assisté quand on est un peu quelqu'un de sensible ou parfois un peu hypersensible et qui voit certaines injustices dans le noyau familial ou même dans le pays dans lequel j'ai grandi. Oui, enfin, on a besoin de respirer, de comprendre pourquoi on est là, pourquoi il y a cette injustice et qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ce mal, encore une fois, nous rajoute dans la vie. Et donc, la musique est devenue tout court pour moi une forme d'air frais dont j'ai besoin tous les jours. Et je pense que l'humain, il ne sait pas pourquoi il est là sur cette terre. Et j'ai toujours l'impression, enfin parfois j'ai des moments de pic, d'angoisse où je me dis mais à quoi bon cette vie très dure, qui est très injuste, pleine de catastrophes. Si tu t'arrêtes une seconde sur ça, sur la réalité humaine, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et vraiment, je pense qu'on ne pourra pas survivre. Enfin moi, personnellement, je sais que c'est pas très difficile pour moi de survivre sans un appui spirituel, sans sentir qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas mon corps et mon cerveau, qui est quelque chose qui est plus fort que moi, qui est une sorte d'énergie, qui est une sorte de communication invisible avec l'autre, que j'ai trouvé pour le coup avec la musique, mais ça peut être avec même la science, ça peut être même avec la philosophie, ça peut être avec tout, avec le cinéma, avec la parole. C'est juste qu'il faut croire à quelque chose qui est pas que nous, qui n'est pas que l'humain, qui n'est pas que son intellectuel, quelque chose qui nous relie quelque part. Parce que c'est là le problème, parce que chacun... on vit dans un monde très individualiste, avec un réseau, avec des réseaux sociaux qui nous fait qui nous donne cette illusion qu'on est beaucoup plus connecté, alors que c'est complètement l'inverse. Donc on a vraiment besoin d'avoir cet appui pour regarder l'autre et sentir qu'il y a peut-être un lien, qui est vraiment un lien entre moi et toi aujourd'hui. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose de culturellement qui nous lie, c'est aussi parce que on a, enfin pour le coup ça c'était l'excuse parce que ça nous fait ouvrir cette porte à cette énergie, mais on aurait pu avoir autre chose. Mais c'est pouvoir regarder l'autre et savoir qu'on peut communiquer malgré tout avec avec ça.
Ouais, bien sûr. Mais cet acte en fait de créer pour guérir, créer pour se lier à soi, mais aussi se lier aux autres aussi. Enfin, je trouve que c'est intrinsèquement lié aussi avec en fait la célébration, justement, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, ce lien en fait avec le fait d'être un peu dans le désarroi, dans la solitude. La guérison et la célébration en fait qui entre en jeu. Et je pense que c'est aussi un moyen de se rattacher à sa terre natale, et que ça fait partie justement des traditions les plus anciennes, en fait, de célébrer quand on est dans le désespoir. Je sais pas justement si vous avez ce rapport là à la célébration, notamment aussi par votre duo Bedouin Burger, mais aussi seul.
Oui, avec la chanson Yuma de mon album, justement, c'est une chanson de deuil, mais qui est un peu dansante, et qui est une chanson qui a été un peu au début, enfin, qui était un peu à l'origine de la création de Bedouin Burger. C'est une chanson que j'ai aussi écrite suite au décès de mon mari, qui était un peu à l'origine de l'album Yuma aussi. Enfin, donc, Taht al-Warad parle aussi, c'est une chanson totalement de deuil, mais qui célèbre un peu la mort, qui célèbre la vie, du coup, à travers ça. J'étais très frappée par les célébrations des morts en Syrie. Enfin, ouais. pas que en Syrie d'ailleurs.
Les
jeunes,
aussi,
ouais, au Liban,
je
ils
crois,
ont ça. Ouais. Il y a une certaine quand il y a quelqu'un de surtout jeune, on fait comme un carnaval ouais. avec en criant, en dansant avec des rythmes, etc. Et ça, c'était quelque chose pour moi d'assez fort de voir un autre côté de la mort qui est quelque chose dont on a tous peur. Mais aussi, c'est comme, si vous voulez, j'avais pas le choix. De toute façon, quand on traverse des moments difficiles, on n'a pas le choix. Vraiment, l'espoir est une force, mais c'est surtout que nous, sur cette terre, si on n'a pas l'espoir, on ne peut pas continuer à vivre. C'est pas possible. Donc, pour moi, c'était je suis dans une situation très difficile. J'ai qu'à chanter et danser. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est l'humour, justement. Mais ça, c'est oui. très, tellement beau. C'est tellement fort. Les gens qui... Enfin, moi, ma musique est un peu triste et mélancolique. Moi, j'espère pouvoir, comme la musique brésilienne, la musique africaine, ouais. enfin, le jazz. Pourquoi j'aime autant le jazz? C'est parce que ça vient d'une grande souffrance de l'esclavage. C'était des chansons vraiment de force, avec des mélodies vraiment...
Mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans votre musique, dans la manière d'improviser
oui, le jazz justement.
Oui, bah moi le jazz m'a énormément attirée par ça parce que je me suis dit c'est incroyable cette culture qui veut créer quelque chose d'assez fort, qui est joyeux. La musique brésilienne elle a ça aussi,
ouais.
Mais qui vient de quelque chose de vraiment dur, l'esclavagisme, la pauvreté. Ça, c'est quelque chose que j'ai une grande admiration pour les gens qui ont pu créer quelque chose d'inspirant, de positif à travers des situations très, très difficiles. Donc, j'essaie. J'espère que ma musique sera un peu plus joyeuse avec le temps.
Bah, ça l'est, en l'occurrence, justement, grâce... peut-être pas vos compositions, Lynn Hadid, mais justement par le duo
Oui, avec Baden Bagger, on a ce côté un peu plus dansant, un peu plus... Oui, bah, tout à fait.
Je pense que pour un peu avoir une idée de ce dont on parle, on peut écouter Taht El Ward. تحت الورد نيم نيم العريس ودعنا ثوب العرس لبسنا وقلنا له وينك يا وينك يا ابو الوجه الحلو والغالي عقلبي وحدك عصا تحت السما جنينه روحي وفضه وذهب زين داري هدي اصحابي وناس يرجعوا مره يقولوا تحت الورد نيم نيم العريس ودعنا ثوب العرس لبسنا وقلنا له وينك يا وينك يا ابو الوجه الحلو والغالي عقلبي وحدك
La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30, sur Radio Campus Paris.
Alors, on vient d'écouter le morceau Taht El Ward, donc il y a une collaboration entre vous, Lynn Hadid, et Zed Hamdan, dans le cadre du duo de Bedouin Burger. Mm-hmm. Et donc, on parlait en fait de du lien qu'on peut faire entre la guérison et la célébration par la musique. Mm-hmm. Et c'est notamment, oui, grâce à ce duo que vous composez ce genre de morceaux. Et on retrouve aussi un morceau qui s'appelle Dabke, mm-hmm. Qui du coup en fait s'inspire en fait de la musique de. Enfin, je sais qu'en Égypte on dit Dabke.
Dabke, c'est la danse. C'est une danse très connue. C'est même un rythme.
C'est ça.
Dans la région, et c'est une danse comme ça en forme de fil où il y a les hommes et les femmes et les enfants derrière qui se prennent dans la main et qui font un truc avec les jambes.
Ouais, mais justement, c'est une tradition musicale et de danse hyper importante dans les pays, notamment le Liban, la Syrie, la Palestine et la Turquie, me semble.
Et les Kurdes aussi, ils font beaucoup ça. Les Kurdes, ils font beaucoup, ouais.
En effet. Et oui, justement, en fait, ça reste en fait une musique et une culture, un moyen de célébrer propre à un territoire géographique très précis. Mm-hmm. Et vous en parliez déjà donc avec le jazz qui est né aux États-Unis. Mais est-ce que il y a en fait des musiques de territoires précis en fait de certaines cultures qui vous amènent aussi vers cet univers de la célébration?
Tout à fait. La musique en général, tout ce qui est Balkans. La musique bulgare, moi j'adore la musique bulgare, que ce soit la tradition, surtout vocale là-bas. J'ai été beaucoup inspirée par la musique bulgare pendant très longtemps. J'ai écouté beaucoup les chorales bulgares. C'est d'une harmonie et de musicalité vraiment qui a à la fois le côté un peu oriental, entre guillemets, et les sonorités classiques un peu occidentales. C'est vraiment très beau. Et aussi, si tu entends la musique du Balkan, la musique, la scène albanaise, serbe, incroyable la ressemblance avec la musique de chez nous qui est un peu la séparation avec des trances, avec des rythmes un peu joyeux. Donc ce côté-là, oui, ça m'a beaucoup inspirée. Mais je suis sensible je n'ai jamais été inspirée par une région en particulier. Je sais que le chant bulgare, il a eu un effet sur moi, mais aussi le chant indien. La musique classique, le jazz, j'aime beaucoup, beaucoup de choses de plusieurs. J'ai pas beaucoup exploré certaines musiques comme en Europe du Nord, en Suède, en Norvège. Je connais pas beaucoup, alors qu'ils ont une tradition musicale, même traditionnelle, très très importante. Il y a certaines choses que c'est une recherche qu'il faut que je fasse encore plus, mais le monde est plein de petits bijoux un peu partout, quel que soit le style.
Ouais, donc c'est ce qui ressort, c'est quand même une certaine ouverture en fait au monde, à l'autre, en fait à tout type de culture en soi, mais sur le plan rythmique du moins, en tout cas avec le morceau Zamel, je sais pas si on prononce comme ça pour le
si,
coup.
Si, c'est une Zamel. Ouais. Zamel.
Je trouve qu'on retrouve en fait vachement sur le plan rythmique ce truc très très chabi que vous évoquiez tout à l'heure, très très baladi. Justement, moi, ça me fait un peu penser aux musiques du Saïd, du sud de l'Égypte, mais aussi en fait, chaque territoire a son propre sa propre musique chabi du coup, mais vachement quand même concentré vers le côté Égypte, Liban, Syrie, Palestine, en fait. Ce truc très, très. Enfin, en fait, qui donne envie de taper du pied.
Oui, c'est sur le. Enfin, en général, c'est sur le 1 et le 3. Enfin, c'est vraiment. C'est très.
Exactement.
Et c'est. Zamel, c'est une tradition yéménite, par contre.
Ok.
Ça vient du Yémen. Mais c'est pas chanté comme ça. Enfin, c'est chanté peut-être comme ça, mais le rythme, peut-être, il n'est pas comme ça. Zamel, c'est un. C'est un type de poésie en fait yéménite, et c'est souvent donc le Zamel, c'est comme on dit le Zajal dans la région Syrie-Liban, c'est-à-dire c'est des gens qui discutent à travers la poésie chantée et qui discutent, qui peuvent régler des conflits. C'était pendant les moments de l'Ekraba, elles qui s'assoient ensemble et qui disent, et l'autre qui répond. Mais c'est magnifique, si vous regardez des Zamel sur internet, il y a des sélections incroyables.
Mais c'est polyphonique, du coup ça se chante à plusieurs ou ça se chante
parfois
seul?
Moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est surtout des hommes qui chantent ça, et c'est un homme ou deux. J'ai vu pas plus que ça, mais à l'unisson, donc pas d'harmonisation. Mais c'est j'ai pas vu des rythmes avec ça, j'ai vu vraiment que des poésies chantées comme ça. Donc là, Zamel, pour le coup, avec Bedenburger, c'était une prière à la pluie. Donc je dis dans les marhaba ya man zarana bil gabel, et c'est une, et je dis que Dieu nous apporte le zabel. Zabel, c'est la pluie okay. Lourde. Donc zamel et zabel, c'est mal.
Faudra chanter ça cet été pendant la sécheresse, on pense.
Oui, tout à fait. Pas aujourd'hui parce que là on a tout ce qu'il faut. Oui.
Mais ok, ouais, je trouvais ça assez intéressant en fait, justement sur le plan rythmique, mais je connaissais pas du tout l'origine du texte. C'est Yémen, du coup, on est plus vers la péninsule.
Oui, Arabie. Arabique. Ouais, c'est le sud de l'Arabie.
Et sur le plan rythmique, est-ce qu'il y avait eu une inspiration particulière
Alors, je crois pas, parce que c'est au feeling, c'était vraiment. Okay. Ça aurait pu être autre chose aussi. Mais je pense que nous, parce que c'est Zaïd qui a commencé à penser, à réfléchir à quelque chose rythmiquement.
D'accord.
On est très influencé par le dabke, justement. On est très influencé par ces rites de chez nous. Mais je pense qu'un mec yéménite peut-être aurait fait autre chose, ou quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite, il aurait fait quelque chose qui est plus en rapport avec l'Arabie Saoudite, qui ont aussi des rythmes un peu différents, qui sont magnifiques d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un musicien vraiment qui a écrit, un musicien libanais qui a écrit un livre magnifique sur les rites de la péninsule arabique, qui s'appelle Tariq Yamani, que j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Okay.
Et donc, il analyse cette région.
Ça a été traduit en français
Je ne sais pas s'il n'est pas qu'en anglais.
Ah, c'est en anglais.
Oui, en anglais. Okay. Mais c'est fascinant, les rythmes qui sont un peu en rapport avec le désert, avec les chameaux qui marchent. D'ailleurs, qui sont avec l'origine beaucoup du swing, qui est le jazz.
Ouais.
Mais ils sont différents. Ils sont différents que nos rythmes à nous, qui sont dans la Syrie, Liban, Palestine, qui sont plus...
Ouais. Mais c'est toujours très lié, en fait, à la poésie, en fait. C'est aussi ça, tout le truc des mouachahad.
Oui, mouachahad, les amels, oui.
La consida, enfin... Mm-hmm. Tout c'est, en fait, c'est le genre de poésie qui sont faits, en fait, pour être chantés.
Mm-hmm.
Et qui sont faits pour être chantés. Le rythme va être accordé... aux rimes et aux vers, en fait.
Mmh.
Et c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le morceau Zamel, mais maintenant que vous le dites, que c'est un héritage d'une poésie yéménite, ça fait vachement sens.
Mmh.
Je pense qu'on va écouter le morceau tout de suite. Thank you.
بنفسي ورحالي واقول يا رب بنفسي ورحالي واقول يا رب الناس في نعم وانا معرب الناس في نعم وانا معذب الشي ما جنني والله ما جنن الشي ما
d'écouter donc Zamel, qui est un morceau de Bedouin Burger à nouveau, donc le duo composé par Lynn Adib, qui est en notre présence ce soir, et Zayd Hamden. Et on parlait justement en fait de tout le lien qu'on peut faire entre guérison, célébration et les inspirations en fait qui viennent de territoires géographiques assez précis. Donc là, en l'occurrence, ce que vous avez dit, c'est que donc, c'est un poème yéménite. Mais que la production, c'est.
Mais en fait, plus, au début, en fait, tu sais, en l'écoutant maintenant, mais en fait, les rythmes, c'est très inspiré de la région de Peninsula Arabie quand même. Mais le début, c'est vrai que le début. Ça peut être quelque chose qui nous rappelle certains rythmes un peu de chez nous, mais je pense que Zayd a fait une recherche d'essayer de s'approcher un peu de l'origine de la poésie. Mais de manière générale, par exemple, Debke, on a d'autres chansons dans l'album qui sont beaucoup
oui,
naturellement.
Debke.
Oui, qui vient un peu de notre rythme de la région.
Bah oui, parce que c'est assez proche pour le coup, il me semble, le Debke Syrie Liban. Je crois que c'est assez proche.
Oui. Toute cette région, le Debke en général, c'est plus ou moins le même rythme en général. C'est un rythme plutôt en 4/4, très simple, très dansant de la même région.
Mais du coup, je pense que ça va nous permettre en fait d'en arriver pratiquement à la fin de l'épisode, puisque c'était notre dernier point à aborder. Mais je voudrais quand même finir par le fait que tout ça, donc ZML, qui est donc une production qui s'inspire à la fois un peu du Debke, un peu de la péninsule arabique, les morceaux qu'on a écoutés avant, donc Tahat El Ward, tout ce qu'on a pu évoquer, en fait, tout ça, ça renvoie, je trouve, toujours à la figure du nomade. Et je pense que c'est assez intéressant de même moi, enfin nous qui échangeons toutes les deux, et parce que vous me dites vos réponses, en fait, on en revient toujours à ça, le voyage entre les cultures.
Oui, c'est vrai. Pour ce projet en particulier, il y avait ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres projets où il y avait une recherche d'une autre manière. Par exemple, le disque que vous avez mentionné avec Marc aussi, il y avait peut-être ce voyage entre la Syrie, la France, les États-Unis, le jazz, la musique religieuse. Enfin, il y a aussi, je pense que J'aime bien voyager avec chaque projet que je fais dans un autre territoire, avec d'autres rythmes, avec d'autres aspirations.
Ouais. Et est-ce que, pour finir, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos projets à venir, peut-être ?
Là, donc j'ai, à part mon disque solo en 2018, il y a le disque avec Marc Bronfos en 2022. On va sortir l'album avec Zayd cette année.
Ouais.
À partir de septembre, on va sortir un album avec une équipe de musiciens. On s'appelle Yala Queen. On va sortir un disque aussi. On va le défendre pendant l'année qui suit. Et j'ai un album aussi que je suis en train de faire, qui est presque fini, avec deux musiciens libanais qui viennent de la scène plus musique arabe contemporaine, un peu slash jazz, qui s'appellera peut-être Adib Yassine Khazen. Et c'est vraiment des magnifiques morceaux qu'on a composés ensemble pendant deux résidences. Et vraiment, j'attends du coup de finir tous ces sorties pour travailler sur mon projet personnel pour faire un deuxième album solo. J'attends vraiment avec impatience.
Enfin, vous êtes quand même sur pas mal de choses à la fois, pas mal de choses assez différentes. Mm-hmm. Et c'est ça ce qui fait quand même votre spécificité en tant qu'artiste. Mm-hmm. Mais je pense que nous, auditeurs de l'Inadib, on attend aussi impatiemment le deuxième album oui. personnel. Bon, on arrive donc à la fin de l'épisode, donc un grand merci à vous.
Merci à toi, Émilie.
D'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé à nos côtés. Merci aussi à notre petite équipe de La Nuit des Divas, avec aujourd'hui Suzanne à la réalisation, mais normalement Hello, et Nux au montage et au mixage. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de radiocampusparis.org. ainsi que sur Spotify avec la playlist des morceaux qu'on aura diffusés. Vous pouvez aussi, pour ceux que ça intéresserait, vous abonner à notre page Instagram La Nuit des Divas. Très bonne soirée à tous, j'espère vous retrouver bientôt. Et on vous laisse avec, pour bien finir de manière mélancolique, le titre Yom de Lynn Adib.
Merci, merci à toi.
Mahboubi rah ya حكاني بنومه يا يوم قال لي طير السما على فوق الشمس على ونادالي رواح يا يوم يا ربي صليت واديله سلامي وديت ناديله يومه يا ترى هو صار حبيبي فوق يومه لما بكرة تجي نصليله راه Na na na.
محبوب